Europe 1, la France bouge. Aurélien Fleureau.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge, la bulle d'optimisme d'Europe 1 pour découvrir des pépites françaises. Pendant une heure, nous allons recevoir des femmes et des hommes qui osent et qui accompagnent les changements de notre société. Au sommaire de votre émission aujourd'hui, tout pour vous sentir bien dans vos vêtements, en particulier à la maison. Confort et cocooning seront les mots-clés de cette heure que nous passerons avec le fondateur d'une marque née à Marseille, American Vintage. Il habille les femmes, les hommes, bientôt les enfants et il a tout prévu pour votre garde-robe, notamment celle du week-end. Michael Azoulay est l'invité de La France Bouge. À la une également, pour rester dans cette idée de confort, vous allez découvrir Flair. En 5 ans, la marque a réinventé le body, la promesse d'une seconde peau. On découvre ses produits d'ici quelques minutes. Direction ensuite l'île sur la Sorgue pour entendre l'histoire de l'une des plus vieilles manufactures de fibres nobles en France. C'est Brun Vian de Tyran. Ce sera la saga du jour de Charlotte Barrican. Rendez-vous à 13h30. Le pitch des trophées européens de l'avenir avec notre partenaire, la CCI, et évidemment l'indispensable Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Aurélien. Alors aujourd'hui on reçoit Maison Dormant. C'est une marque de pyjama élégant, confortable, engagé et durable.
Merci Nathalie, rendez-vous vers 13h45. Et puis, en fin d'émission, demain au travail, focus sur le sport en entreprise pour améliorer le bien-être des salariés. Voilà le programme, bienvenue dans La France Bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram et bien sûr Europe1.fr. C'est le rendez-vous des entreprises qui innovent les initiatives positives. Et cela se passe aujourd'hui autour du textile, à la recherche du confort à tout prix. Et nous commençons donc évidemment avec vous, notre invité du jour, Michael Azoulay. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur et président d'American Vintage, une marque née à Marseille en 2005. Alors d'abord de la vente aux entreprises, avant de cibler ensuite le grand public. Présence en France, à l'étranger, American Vintage, ce sont 800 salariés, une soixantaine de magasins en France, près de 80 points de vente dans le monde. D'abord, question rituelle pour commencer cette émission, Michael Azoulay. Comment ça va pour American Vintage, là, en ce début d'été 2022?
Écoutez, ça va pas trop mal. Petite précision, c'est à peu près 200 points de vente dans le monde. C'est
200 dans le monde.
Voilà, c'est 60 hors grands magasins.
D'accord.
Et au global, avec les outlets et grands magasins, c'est à peu près 200 points de vente. Effectivement, on a commencé en B2B.
Ouais.
Et ensuite, on a bougé, on a muté sur du B2C, en physique, en digital. Et le B2B reste toujours une part importante pour nous. Écoutez, ça a été un début d'année tranquille. C'était janvier-février, c'était des soldes qui étaient gentils, on va dire.
Ouais, c'était voilà. Encore un peu les montagnes russes, des bonnes nouvelles,
voilà,
des nouvelles inquiétantes. Donc c'était un peu compliqué aussi.
Ça a été un début d'année un premier trimestre un peu difficile, on va dire. Et ensuite, arrivé des beaux jours, ça a démarré la saison tranquillement et ça se fait, ça se passe. C'est une saison qui est correcte, c'est pas la folie. L'année dernière, c'est difficile de se comparer à l'année dernière. L'année dernière, on avait été fermé quelques mois, il y avait un peu d'euphorie à la réouverture.
Oui.
Mais dans l'ensemble, ça va pas trop mal, puisque on va dire on a tellement appris de ces 2-3 dernières années.
Oui. C'est ça, c'est compliqué de comparer d'une année sur l'autre, peut-être même comparer il y a 3 ans. Est-ce que ça a du sens? Parce que du coup, qu'est-ce qui a changé chez American Vintage là pendant, si je prends le mois de juin 2019 et maintenant quasiment le 3 ans
beaucoup,
plus tard?
Beaucoup de choses ont changé. Ce Covid a été un accélérateur, un booster de plein de choses, de digitalisation, de revenir aux essentiels.
Mm-hmm.
Et c'est clair que moins de strates.
Moins de stratégie dans le sens où on ne sait pas forcément...
De stratégie, moins de strates entre les équipes.
D'accord.
Moins de personnes, moins d'interlocuteurs. On essaie d'être plus direct.
Plus direct.
Ouais, plus direct.
Des équipes qui fonctionnent un petit peu différemment. Qu'est-ce que ça a changé, le fait aussi d'être à distance? Vous avez trouvé des nouvelles manières de travailler?
Oui, on est plus en temps réel.
Ouais.
Nous, on avait déjà entrepris pas mal de digitalisation, d'accès aux informations en temps réel, que ce soit au siège, sur le terrain et jusqu'au point de vente. Donc le Covid a été un accélérateur parce qu'il a fallu... Il n'y a plus trop le choix de réfléchir, d'attendre. Il faut agir. Et honnêtement, dans l'ensemble, je pense qu'on peut dire qu'on en ressort plus fort de cette expérience.
Avec ce côté en temps réel, vous l'avez dit, alors qu'avant, il y avait cet aspect un peu plus classique de on fait un stock, on réfléchit en termes de saison. Ça, c'est, pour le coup, c'était moins votre manière de fonctionner déjà?
Non, on a toujours été en
c'est
mode
ça.
Covid, en vérité. On est né, on a grandi en mode en temps réel. Mais c'est vrai que quand on a développé du retail, on a mis du temps à trouver notre signature dans le management, dans le développement, dans, En même temps, on est allé très vite dans l'expansion en France et à l'international.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on avait peut-être, avant Covid, jamais vraiment réussi à insuffler les valeurs de l'entreprise qui sont là depuis toujours. Et Covid a permis de recentrer beaucoup de choses.
Voilà, vous avez pu vous recentrer un peu sur certaines choses.
On est allé aux essentiels et on a géré, je pense. Il y a eu un esprit d'équipe, il y a eu pas mal de prises de conscience. Et je pense qu'on s'est tous serré les coudes et on a tous bossé bien ensemble en équipe. Et c'est vrai que je pense que c'est une première pour nous d'avoir su insuffler dans le retail ce qu'on a su insuffler auparavant dans l'esprit de l'entreprise.
Alors parlons un peu produits, forcément, on a parlé de confort, d'être bien dans ses vêtements, alors notamment peut-être pendant les périodes de confinement qu'on a vécues. Justement, American Vintage, comment vous positionnez par rapport à cette...
C'est vrai que pour nous, effectivement, cette période, elle a été plutôt propice parce que la marque, c'est vrai que c'est une marque où on fait beaucoup de coton.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mailles, donc il y a beaucoup cet esprit cocooning, il y a beaucoup de couleurs, on joue avec les vêtements, c'est assez confort, c'est assez doux, c'est ce qu'il en ressort au début dans notre ADN. Des matières fluides, des matières avec des touchés assez particuliers, du traitement au lavage. Mais à côté de ça, on a aussi des vestiaires plus urbains.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que cette période, les gens, ils avaient besoin aussi à la maison. On avait vraiment, c'est vrai, clairement des collections, des vestiaires qui étaient adaptés pour ça.
C'est pas le costume cravate, en tout cas, où on va être un peu cintré. C'est peut-être pas non plus le vieux jean qu'on mettait de temps en temps. On a envie de se faire aussi plaisir si on reste un peu plus longtemps à la maison.
C'est l'objectif. Clair qu'on avait des vestiaires qui étaient appropriés pour cette période et ça nous a permis aussi d'aller plus loin dans cette philosophie, dans cet état d'esprit. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on va encore plus loin dans la mixité, en cassant un peu des codes avec des produits un peu plus chic, sport chic, et produits un peu plus cool, un peu plus loungewear. Donc il y a de beaux mélanges qui se font.
Alors ce qui vous occupe forcément aussi un petit peu en ce moment, c'est la période de solde qui vient de débuter depuis quelques jours. C'est toujours important. Vous disiez que c'était calme là pour celle d'hiver, pour la période d'hiver début de 2022. Qu'est-ce que vous en attendez là?
On en attend toujours un peu trop,
ouais.
mais voilà, c'est clairement plus des rendez-vous comme c'est l'été dans le passé.
Et est-ce que malgré tout, là peut-être avec cet état d'esprit de besoin de pouvoir d'achat, essayer de refaire des économies, on a l'inflation en tête, même si c'est un peu dans les esprits, c'est au cœur des préoccupations, ça pourrait forcément peut-être répondre à ce type de préoccupations?
Oui, je pense que sur les dernières semaines et derniers mois, les gens, ils ont quand même... un peu serré, donc peut-être qu'avec le phénomène des soldes, des remises, ça va aider à consommer. Bon, après, je pense que sur l'été, c'est pas comparable avec l'hiver. L'été est plus long, les soldes démarrent très tôt. Donc, on a aussi pas mal de points de vente dans des stations balnéaires. Donc, je pense que la consommation sur l'été, elle est plus forte que sur l'hiver. Et du coup, non, on est confiant. Ça démarre pas trop mal. Et ça va durer. Donc, je pense que il n'y a pas de raison et ça va. C'est des soldes. Souvent, l'été, ça se travaille sur le temps, sur la durée. Et c'est pas juste les premiers jours.
Et est-ce que pour la rentrée, d'ailleurs, ça peut devenir un peu un rendez-vous aussi de se dire il y a aussi un enjeu. On refait un peu sa garde-robe et peut-être différemment justement en alliant.
C'est moins évident les rentrées parce qu'elles sont toujours proches des soldes et en même temps c'est juste après les rentrées de vacances, les rentrées scolaires aussi.
On a moins la tête à ça.
Donc voilà, et puis aussi le climat, il fait souvent très chaud.
Ouais.
Donc on est aussi dans des périodes hybrides en termes de saisonnabilité. C'est vrai que là c'est moins envie de refaire ses vestiaires et donc il faut avoir le bon produit au bon moment.
Comment se positionne American Vintage en termes de gamme de prix? Je crois que vous disiez en préparant l'émission que vous étiez un peu le cher des pas chers, le pas cher des chers. Comment on arrive à se positionner dans
On a un prix moyen, la pièce qui est autour des 75 euros.
D'accord.
Donc on a un panier moyen autour des 130, 140 euros.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on a des gammes de t-shirts de 35 à 60 euros en moyenne. Nos pulls entre 90 et 130 euros en moyenne. Nos denims sont entre 100 et 115 euros en moyenne. Donc, on a aussi cette chance d'être 75% Euromed en production.
Production L'Asie, en Europe, pays méditerranéen également. Ouais.
Europe, et on est que 25% Asie. Maroc, Tunisie, ouais. Essentiellement, sur l'Afrique du Nord, Portugal, Bulgarie en Europe essentiellement. Okay. Tout est pensé et tout est développé au siège social à côté de Marseille. On est à Signes, sur le plateau de Signes, surplombe le circuit de Formule 1 du Castellet.
Ok, ouais.
Voilà, donc on est 160 collaborateurs avec le centre de logistique intégré sur le plateau de Signes. Et voilà.
Qu'est-ce qui se vend le plus ? Des t-shirts, il y a un indémodable, il y a des meilleures ventes.
Oui, bien sûr, on a nos t-shirts iconiques blancs et nos mailles aussi.
Classique indémodable efficace. Bon, ouais. Très bien, merci à vous, Mickaël Azoulay. Vous restez bien évidemment avec nous jusqu'à 14h. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'American Vintage.
Europe 1, la France bouge. Aurélien Fleureau.
Et si vous nous rejoignez, la France Bouge s'intéresse aujourd'hui à votre confort, plus précisément aux vêtements confortables, ces vêtements que l'on a plaisir à retrouver le week-end, le soir ou même la semaine à la maison pour ceux qui peuvent faire un peu de télétravail. Nous sommes avec Mickaël Azoulay, le fondateur de la marque American Vintage, et nous accueillons en studio Clémence Wurs. Bonjour.
Bonjour Aurélien.
Vous avez créé Flair il y a 5 ans. Vous avez changé de job pour créer votre entreprise et donc fabriquer des bodys à votre goût, ce que vous ne trouviez peut-être pas forcément sur le marché jusque-là. Alors, comment ça s'est passé ? Je crois que vous aviez 27 ans, vous travaillez chez Hubert. Pourquoi un tel changement ?
Ouais, alors effectivement, j'ai bossé pendant 3 ans chez Hubert. Et en fait, moi, je suis originaire de Troyes, qui est un bastion historique du textile français.
Ouais, effectivement.
J'ai évidemment passé ma vie dans le dressing de ma maman, qui était une fan de body, qui m'a transmis cet amour pour ce produit qui, je trouve, allie vachement le côté, justement, on en parlait, confort, et à la fois sans renier la féminité, parce que c'est un vêtement qui galbe, qui épouse bien les formes.
Et élégant, c'est ça, voilà. C'est pas que pour rester à la maison.
Exactement, c'est pour les deux. Et je me suis dit que ce serait sympa de tenter l'aventure et de, justement, remettre un peu au goût du jour ce bastion troyen. Donc, tous nos bodys sont fabriqués à Troyes.
Donc, il y a cette volonté de mettre en avant votre ville d'origine avec cette cohérence. Comment vous avez fait pour switcher, pour devenir il y a l'aspect passion, forcément, mais comment on arrive à le professionnaliser ?
Ouais. Et ben alors, du coup, je suis allée voir un atelier à Troyes qui est toujours un de nos principaux partenaires.
D'accord.
Eux, en fait, c'est un atelier intégré. Donc, ils ont du modélisme à la fabrication de tissus jusqu'à la confection. Et donc, moi, je dessine. Ensuite, une modéliste prend le relais, crée toutes les collections. Et on s'est lancé, en fait, il y a 4 ans et demi, ça fera 5 ans en octobre, par une campagne de pré-vente. Okay. Ce qui nous a permis, en fait, de tester un peu l'appétence de notre potentielle clientèle. Et depuis, ça marche très, très bien. Puisque j'étais venue en 2019 déjà dans cette même émission.
Effectivement, tout début.
Présenter la marque et depuis on a fait x10 en chiffres.
Pas mal, c'est l'effet la France donc, bouge, x10
ouais,
en chiffres.
Exactement.
Hein. N'hésitez pas à venir. alors on est à la radio, alors il y a Europe1.fr qui va nous aider, mais est-ce que vous pouvez nous décrire justement vos bodys, qu'est-ce qu'ils ont de spécifique ? Comment on se dit, ah tiens, je vois la patte de Flair.
Ouais, alors Flair justement c'est toujours ce côté assez chic à la française, tout en ayant, on fait très attention aux matières qu'on utilise, donc c'est toujours des matières qui vont être très confortables, et à la fois on travaille vachement les décolletés, donc c'est toujours des décolletés aux formes très géométriques, soit des donus, soit des décolletés devant qui sont très étudiés, mais toujours dans une démarche intemporelle pour qu'un produit ne se démode pas.
Donc avec une sorte de base classique sur laquelle vous jouez pour justement avoir un petit
Ouais,
un
alors
petit
on a
détail.
Plein de formes en fait différentes, des coupes plus habillées, des coupes plus, plus pour tous les jours, des body pulls aussi pour l'hiver, quelques maillots pour l'été et plein de matières. On a du velours, on a du coton, du Milano,
quelques exemples en studio, velours, coton. Ce que vous portez, par exemple, vous, c'est un des classiques de Flair.
Ouais, exactement. Bah, là, on a un donu assez plongeant.
C'est ça.
Ils sont bien évidemment tous dispo sur notre site internet.
Et vos réseaux sociaux qu'on peut retrouver évidemment facilement. Donc, c'est vraiment sur la matière, c'est peut-être ça qui va faire la différence aussi.
Oui, surtout les coupes. Je pense qu'on est très reconnus pour cet ADN, justement, très féminin, très élégant. Et toujours des décolletés hyper étudiés, un body très pratique. On a une finition tanga pour éviter les marques. Les femmes comprendront mieux peut-être que les hommes.
Peut-être, ouais. On va pas se mentir.
Des boutons de pression pour le côté pratique. Enfin voilà, on étudie pour que ce soit vraiment la pièce que vous ne sentez pas, mais qui vous permettent d'être chic en toutes circonstances.
Parfait. Et alors, comment vous arrivez à continuer à travailler à Troyes, autour de Troyes, en tout cas pour du Made in France? C'est forcément un enjeu, c'était une obligation pour vous, pour ce type de produit, pour ce que vous aviez envie de développer?
Ouais, bah, ça fait évidemment partie de notre vision. Je me suis d'ailleurs associée depuis avec Charlène Colette, qui, elle, est bretonne.
Ouais.
Donc pareil, un bastion aussi... un peu du textile français.
Oui.
Et je pense que voilà, c'est ça qui nous anime aussi, c'est d'essayer de remettre en valeur cet héritage qu'on a. Mais effectivement, ça impose des contraintes. Là, par exemple, on est en période de solde.
Oui.
Donc nous, c'est des choses qu'on fait pas du tout. On essaie,
oui,
plutôt de proposer un prix juste toute l'année à nos clientes, de dessiner, comme je vous le disais, des coupes assez intemporelles. Du coup, ça nous impose une distribution en direct sur notre site. Donc on n'a pas vraiment de revendeurs. On fait des pop-up de temps en temps, et on développe le B2B aux États-Unis notamment.
D'accord.
Parce qu'on a fait un pop-up chez Saks sur la 5e Avenue à
Donc
New York pour nos 4 ans.
Donc c'est possible d'acheter vos produits à New York.
Donc c'est possible d'acheter nos
okay.
produits à New York. Et sinon, on a développé depuis 2020 notre service de seconde main qui s'appelle Flair Réincarnation. Et qui, du coup, on propose en fait à nos clientes qui veulent renouveler leur garde-robe de nous renvoyer leur body. Nous, on les remet, on les reconditionne et on les revend en moyenne à 50% moins cher qu'en neuf. Donc, ce qui permet de rendre le Made in France plus accessible sans passer par ce système de solde.
Oui, j'ai vu effectivement cet onglet seconde main assez visible sur le site. Donc, c'est vraiment dans la démarche aussi de se dire qu'effectivement, pour celles qui n'auraient peut-être pas les moyens de l'acheter neuf, eh bien, il y a une vraie offre.
Et
comment
puis,
on reconditionne d'ailleurs
En fait, déjà à l'origine, on fait des produits de qualité qui peuvent
durer
dans
peu,
le temps.
Ouais.
C'est la première chose. Et ensuite, on va, s'il y a une couture qui a sauté, par exemple, avec le temps, ou des boutons pression, on va remplacer ce genre de choses. On les lave, bien évidemment. On les repasse bien, etc. Et ça repart en vente.
Sur cet onglet, seconde main. Très
Exactement.
Bien. Mickaël Azoulay, patron d'American Vintage, avec nous jusqu'à 14h. Quel regard vous portez sur ce que propose Flair?
Écoutez, moi, quand j'ai commencé VRP, il y a pas mal d'années,
ouais,
ma première collection était des bodys qui étaient fabriqués à Troyes.
Génial.
Il y a une petite cohérence.
98-99, il me semble. Donc, c'est un produit qui me parle un petit peu. Et c'est vrai que c'est un produit que je trouve ultra féminin. Beaucoup de féminité à travers les bodys. On en fait un petit peu aussi dans nos collections.
Ouais.
Bah, écoutez, non, c'est bien. Je connais pas bien la collection, mais par rapport à votre développement, par rapport à votre produit, et là, ce que vous avez dit, bravo, respect, bonne chance pour la suite.
Merci.
La suite, justement.
On fera peut-être une collab ensemble, du
mais
coup.
Pourquoi pas,
pourquoi pas.
Collection capsule, ou je ne sais pas, vous connaissez ça encore mieux que moi, la manière dont ça peut se mettre en place. Justement, la suite, comment vous l'imaginez, vous, Clément, si vous revenez ici dans 5 ans, par exemple?
Ouais, alors c'est effectivement de vachement travailler plus notre réseau de distribution,
ouais,
pour rendre notre produit plus accessible en essayage, parce que ça reste des bodys, c'est des produits quand même qu'on veut sentir, qu'on veut essayer.
Effectivement.
Développement dont je vous parlais aux États-Unis, puisqu'on a signé en fait avec une agent là-bas qui nous représente.
Ok, pour développer différents endroits possibles.
Exactement, nos premières boutiques partenaires.
Est-ce que là, par exemple, l'aspect français Made in France, forcément, ça fait la différence aussi?
Ouais, je pense. Après c'est sûr que le style des produits qu'on propose est aussi hyper important. Mais forcément, oui, aux États-Unis, le côté French touch, entre guillemets, joue, mais ensuite il faut aussi être concurrentiel et que les styles et les prix soient bons.
D'ailleurs, American Vintage qui vient de Marseille, American Vintage, c'est parce que il y avait cette logique là aussi dans ce que vous allez proposer.
Non, mais c'est à dire que c'est American Vintage est né à une période où j'ai pris un virage dans la direction artistique, et
ouais,
c'est vrai qu'à cette période, les États-Unis m'ont beaucoup apporté.
Ouais,
j'ai fait à ce moment là beaucoup de voyages, et c'était un petit peu aussi très tendance le vintage à ce moment, et c'était un peu une dédicace à cette période.
American Vintage, French Flair, et donc Clémence Wurtz en ce moment, il y a combien?
Alors,
de...
Nous, notre marque, c'est, oui, Flair Bodysuit.
Oui, juste... Flair Bodysuit, c'était le French Flair quand on s'exporte. Mais effectivement, si on veut vous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est French Bodysuit. Et sur le nombre de salariés en ce moment, vous êtes combien?
Alors,
vous
coup, il y a 2 ans, j'étais toute seule. Là, on est 4 maintenant. Donc, ça, on reste une petite équipe.
x10, x4, ça monte.
et je me suis donc associée, ce que je vous disais.
C'est ça, c'est vraiment
tout à l'heure.
Des associations qui vous permettent de grandir.
De grandir, exactement.
On verra effectivement comment...
Se structurer pour maîtriser toute cette belle croissance.
Eh bien, parfait. Merci d'être venu. Et puis, à bientôt. On prend rendez-vous tous les trois ans.
Avec plaisir.
C'est plutôt pas mal ici sur Europe 1. Merci Clémence Wurtz, fondatrice de Flair. Mickaël Azoulay, le patron d'American Vintage. Vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin du jour jusqu'à 14h.
Europe 1. La France bouge. Aurélien Fleureau.
Et c'est la France du textile qui bouge aujourd'hui jusqu'à 14h. Nous parlons confort, cocooning, vêtements dans lesquels on se sent bien avec notre grand témoin du jour, Mickaël Azoulay, le fondateur d'American Vintage. Alors vous le savez, hein, chaque jour dans la France bouge, nous revenons sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise ou d'un événement qui ont traversé la France et qui sont toujours là, hein, dans notre pays. Aujourd'hui, récit consacré à Brun Vient de Tyran. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Il s'agit de l'une des plus anciennes manufactures de fibres nobles en France. Et c'est notre saga du jour.
Europe 1. La France bouge. La saga.
Bonjour Charlotte Barrigan.
Bonjour Aurélien.
Alors avec vous, nous allons confortablement nous installer pour vous écouter, nous raconter l'histoire de cette manufacture bicentenaire. C'est donc Brun de Vient-Tyran.
Et oui Aurélien, l'entreprise, c'est 8 générations de couvertures à l'Isle-sur-la-Sorgue. L'entreprise est créée en 1808 sous le Premier Empire par Charles Tyran et Laurent Vient et elle n'a qu'une vocation, feutrer les étoffes, les rendre moelleuses et douces grâce à une simple opération novatrice, le foulonnage, comme nous le raconte Jean-Louis Brun, 8e génération à la tête de l'entreprise Brun de Vient-Tyran.
On faisait ça dans l'eau de la Sorgue et avec une terre à foulon, une argile extraite tout près d'ici. À l'époque, c'est avec tout un réseau de manufactures qui était à l'Isle-sur-la-Sorgue, grande capitale textile à cette époque. Et après avoir réalisé le feutrage des étoffes, nous les transmettions aux manufacturiers qui réalisaient l'opération suivante.
Donc alors si on comprend bien Charlotte, au début, Brun de Vient-Tyran n'est pas fabricant.
C'est exactement ça, ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que l'entreprise décide d'intégrer toute la chaîne de production. Ils apprennent donc les métiers de la laine, la filature, le tissage et la confection. Et Brun de Vient-Tyran devient une marque à proprement parler. La crise de 29 passe par là et menace de faire couler l'entreprise. Mais non, elle tient bon et dans les années 60, la manufacture prend un tournant décisif.
Mon grand-père, Louis Brun, a innové de manière radicale en étant le premier sur le continent européen à pouvoir travailler le mohair, cette très très belle fibre de la chèvre angora qui donne des plaines, des couvertures très très doux mais aussi de toutes les couleurs, très volumineux, très vaporeux. Cette innovation a été le début de notre transition vers les fibres les plus nobles et les plus douces.
Alors les générations suivantes prennent le même chemin et commencent à travailler le cachemire, l'alpaga ou encore du lama, du mérinos, bref, les plus belles laines du monde entier, toujours travaillées dans l'eau de la Sorgue et les produits Brun de Vient-Tyran sont le fruit d'un travail minutieux.
35 manufacturiers qui, dans un plaid que vous avez sur les épaules, que vous avez sur le canapé, ont consacré 15 journées à travers 15 étapes de fabrication immuables qui n'ont jamais changé, transformer la balle de laine en ce plaid.
Et pour que ça dure aussi longtemps, Charlotte, dans la manufacture Brun de Vient-Tyran, on apprend le métier tout simplement auprès des aînés.
Tout à fait Aurélien, face à face, le jeune reproduit les gestes de son aîné. Et c'est important, ces savoir-faire sont devenus rares aujourd'hui. Alors il faut former 50 salariés à Brun de Vient-Tyran, dont 35 travaillent la matière toute la journée. Ils réalisent des plaids, des châles, des couvertures et même des couettes.
Nos étoffes ont une certaine signature qui vient du feutrage, mais également du grattage au chardon. Et ça, c'est quelque chose que nous avons toujours préservé. Et vous savez, le grattage, c'est ce qui permet de faire ressortir la laine, les fibres elles-mêmes, et de créer une toison vaporeuse, veloutée, duveteuse, selon les cas et selon l'intensité du grattage. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans nos étoffes, c'est que on vous apporte un peu de nature.
Alors la manufacture Brun de Vient-Tyran produit 60 000 produits chaque année et les ventes se multiplient en France et à l'étranger. 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise est réalisé à l'export, un chiffre que le dirigeant aimerait voir augmenter dès l'année prochaine.
Merci Charlotte Barrigan pour la saga du jour. Alors qu'est-ce que cela vous inspire, Mickaël Azoulay? Je rappelle que vous êtes le fondateur d'American Vintage. Vous êtes avec nous jusqu'à 14h. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous imaginez bien American Vintage devenir bicentenaire? Vous pensez à la 8e génération? Comment...
C'est impressionnant cette longévité.
Oui, et ce travail sur le produit, c'est très, très précis, très minutieux. C'est tout ce qui fait évidemment le...
Bah, c'est leur force, ils sont restés sur leurs essentiels, sur leur savoir-faire. ne se sont pas éparpillés apparemment, et c'est ce qui fait que le produit dure.
Effectivement, la recette de la longévité. On va se projeter dans l'avenir, peut-être pas la huitième génération vous concernant pour American Vintage, mais en tout cas, l'avenir assez proche, dans les prochaines semaines, le grand lancement pour vous, ce sera, après avoir habillé les femmes, les hommes, vous passez maintenant aux enfants ?
Oui, effectivement, on prévoit sur octobre-novembre une collection kids mixte, où on va travailler du 3 ans aux 11 ans. Mm-hmm. C'est mixte parce que ça sera un vestiaire qui sera pour les garçons et les filles.
Ouais.
Donc c'est nouveau pour nous, c'est attendu depuis très longtemps. Et c'est vrai que là, la marque au global, où on a vraiment une ADN très forte, où on a vraiment développé les produits, les essentiels de la marque qui se sont développés avec beaucoup de nouveautés, beaucoup, un vestiaire qui grandit. Et l'homme qui commence aussi à se développer en France, à l'international, en B2B, mais en magasin aussi, exclusif homme, c'est le bon timing pour nous pour essayer de travailler nos essentiels sur la collection enfant.
Donc, avec donc du coup du choix pour toute la famille, 3-11 ans, c'est ça. Et quand vous dites du coup, c'est l'idée, c'est de se dire qu'une pièce peut très bien aller aux garçons comme aux filles, ce ne sera pas forcément genré en tout cas dans le choix.
C'est vraiment par moment certaines couleurs qui seraient peut-être plus fillettes que garçon, mais sinon, c'est l'idée, c'est travailler la mixité.
Et là aussi, des vêtements confortables, un petit peu plus amples, c'est à la fois
un
pour...
Un peu plus ample, un peu
pour l'école,
assez
pour le week-end,
quand même,
pour correspondre.
Assez mode quand même, sur des matières confortables, évidemment. On va essayer de commencer, puisqu'on n'est pas né là-dedans, mais on va essayer aussi de faire une collection responsable, sur quand on peut, des matières organiques. Quand ce ne sera pas des matières organiques, ce sera des teintures naturelles, organiques. Donc voilà, comme c'est un lancement.
Et vous savez aussi que c'est peut-être une attente de la part des clients, des parents en l'occurrence, pour leurs enfants, sur ce type de produits.
On le fait grandir aussi dans nos collections adultes, que ce soit sur la femme et l'homme. Mais bon, la marque a maintenant 17 ans. Il y a 17 ans, c'était pas dans l'air du temps.
Oui.
Donc là, c'est tout nouveau. Donc on essaie de commencer sur des bases qui vont l'être et voir comment ça va évoluer.
Oui, c'est ça, cette politique RSE dont on parle beaucoup dans les entreprises en ce moment, c'était devenu quelque chose de majeur, donc responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, donc ça fait partie notamment de ce que vous êtes en train de faire progresser chez American.
En fait, il y a des départements qui sont en train de naître et de se créer autour de ça pour renforcer les produits.
Il y a un partenariat tout récent qui a été développé avec c'est le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, c'est ça ?
C'est ça.
Racontez-nous un petit peu.
Victor, Belmondo.
Oui,
c'est ça, donc qui est acteur aussi, qui est tout jeune. On a eu l'honneur et la chance de pouvoir faire cette collaboration. On a fait un film, un court-métrage, qui est en ce moment diffusé sur notre site et sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Et c'est vrai que, en général, la marque n'a jamais eu d'égérie.
Oui.
Parce qu'on considère, on n'a jamais voulu un peu s'enfermer dans des boîtes. Et c'est vrai que ça a toujours été une marque transgénérationnelle. Et on est originaire de Marseille, donc c'est très cosmopolite. Et on voit que par rapport à notre développement, on est aussi bon en Espagne qu'à Hong Kong ou Singapour, et en même temps en Allemagne, en Suisse ou en Autriche.
Mm-hmm.
Donc c'est plutôt transgénérationnel et cosmopolite. Mais c'est vrai que sur l'homme, on a besoin d'avoir des égéries ou des personnes qui vont nous aider à développer la notoriété de la marque.
Pour
et c'est vrai que là, ce projet,
parce
que ce qui nous parle dans ce projet, déjà... l'histoire de la famille et le grand-père quand même, un personnage fort.
Culte, évidemment.
Culte et du coup, son petit-fils qui démarre. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, par rapport aussi à son attachement à Marseille, et on le voit dans le film, du coup, je pense que c'est une belle rencontre.
C'est ça qui a fait sens pour vous.
Ouais, complètement.
Et vous l'avez dit, la présence à l'international, comment vous l'avez vécu cette crise sanitaire en étant, évidemment, donc, les impacts en France, on les a un peu tous en tête. Comment ça s'est passé ? Vous aviez un peu l'œil partout en fonction de la manière dont ça évoluait dans différents pays, différents continents. Là aussi, il fallait avoir être réactif, ce côté en temps réel dont vous parliez en début d'émission.
Oui, finalement, ça nous a beaucoup aidé parce que comme au même moment, on n'avait jamais tous les marchés ouverts.
Ouais.
Du coup, quand on a pu démarrer sur certains, ça nous a permis d'apprendre et de voir comment ça réagissait pour essayer de mieux anticiper ce qui allait suivre. Donc finalement, c'était jamais tout le monde au même moment. Et puis il y en a toujours qui fermaient. C'était des règles différentes, c'était des aides différentes. Il a fallu faire des focus par marché.
Là, en ce moment, on parle beaucoup d'augmentation des matières premières, des coûts de transport, etc. Ça, comment vous arrivez à y faire face? Vous essayez d'anticiper,
de
faire les choses? Ouais, c'est ça. C'est
qu'on subit, on subit.
Vous essayez de faire différemment certaines choses ou est-ce que c'est quand même très compliqué? On ne peut pas switcher de...
On subit, on prend de plein fouet. Maintenant, ce qu'on a réussi à faire, c'est on a préparé tout ça, on a bien anticipé. Mm-hmm. En amont, on a commencé vraiment depuis un petit moment à pré-booker beaucoup de matières parce qu'on sentait que ça faisait que monter. Ça, ouais. Ça fait déjà maintenant quelques mois que ça dure. C'est pas récent, on en parle maintenant, mais, ouais. mais ça fait bien 12 mois que les prix augmentent et que le transport explose.
Ouais. C'est surtout ça. Ouais.
Mais après, bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'énergie. Et donc, pour toutes les industries... l'énergie, elle explose aussi, donc le gaz, l'électricité. Mais il y a aussi une difficulté quand même de remettre tout le monde au travail.
Ouais, vous le ressentez période. Aussi, ouais.
En industrie, oui, et même chez nous. Bon, nous, on peut se permettre de faire un peu de télétravail, mm-hmm. on peut se permettre... Mais c'est vrai que dans des plateformes de production, il faut, comme en logistique, il faut être présent. Et par moment, bah, il y a des nouveaux cas de Covid, hein, c'est toujours là. Ouais. Donc du coup, on n'a pas des capacités de productivité à 100%. Ouais. Donc tout ça fait que ben, il faut encore plus anticiper en amont, encore plus anticiper.
Et avec cette collection enfant, là pour le coup, vous avez pu justement anticiper, ça se prépare des mois à l'avance forcément.
Oui, après nous, notre force quand même, c'est qu'on sait travailler avec du stock. On ouais. a constamment du stock service, constamment. C'est du stock service de produits finis qui sont dans nos entrepôts, mais c'est aussi du stock en matière. Et c'est vrai que c'est ce qui nous aide à anticiper. Donc maintenant, il faut aller plus loin sur les stocks matières aussi, les composants, les boutons, enfin les accessoires et tout ce qui va avec. Mais, ouais. mais il faut anticiper et jouer avec les stocks.
Et ce qu'on vient d'évoquer sur les hausses des coûts, forcément, ça se répercute un petit peu sur le prix. Il n'y a pas le choix.
On va le ressentir cet hiver.
Ouais, plutôt cet hiver, d'accord. Oui, là, à ce stade, vous n'avez pas forcément fait...
Non, jusqu'à présent, ça allait. Mais là, sur les nouvelles collections, la rentrée, on va avoir en moyenne 5% de...
Ouais. Ouais, c'est ça, ce qui est un peu inévitable vu la période, effectivement. Ben, merci à vous, Mickaël Azoulay. Vous restez bien évidemment avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'American Vintage.
Europe 1. La France bouge. Aurélien Fleurot.
Et c'est parti pour les trophées Europe 1, la France bouge. Chaque jour, ils ou elles exposent leur projet d'entreprise. Ils ont une minute pour vous convaincre, pour convaincre notre grand témoin du jour. Aujourd'hui, Mickaël Azoulay, le fondateur de American Vintage. Et bien sûr, Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour, Victoire Ribaud-Mentière.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Maison Dormant. Vous avez 32 ans, vous venez du Mans. Maison Dormant, c'est une marque de pyjama élégant, confortable, engagé, je m'arrête là. Maintenant, c'est à vous. Vous avez une minute pour tout nous dire.
Bonjour à tous. Donc, nous avons créé Maison Dormant en 2021 avec mon associé Lucia Robert. Et l'idée de Maison Dormant, c'est de remettre au goût du jour les pyjamas un peu classiques rétro pour toute la famille. On a donc une gamme homme, une gamme femme, une gamme enfant et une gamme bébé. Et on propose du pyjama chemise, du pyjama short, de la chemise de nuit ou même de la grenouillère. Et l'idée, c'est de se différencier avec d'élégants détails, comme par exemple la broderie personnalisée. Pour Lucia et moi, c'était très important de proposer des matières nobles et durables. Donc, on s'est tourné vers des tisserands très réputés dans le monde, comme par exemple Liberty Fabrics ou la maison italienne Albini. Et on a aussi misé sur l'upcycling, notamment grâce à LVMH et son entité Nona Source. Maison Dormant propose des motifs intemporels comme de la rayure, du tartan, du Vichy. Mais on propose également des choses un peu plus originales comme par exemple des animaux ou des fleurs. Quant à notre production, elle est française et européenne. C'était très important pour nous que ça ait un sens et que la production soit proche de nous. Quant à la distribution, elle est essentiellement digitale pour l'instant. Et on a quelques points de vente en France.
Bien, parfait. On arrive à l'issue de cette minute. Merci, Victoire. Allez, à 3 secondes près, c'est totalement validé. Merci. Vous êtes donc la cofondatrice de Maison Dormant. Évidemment, on va se tourner vers Nathalie Carré. Nathalie, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez évidemment regardé tout cela de près. Quelles sont les forces et les faiblesses, selon vous?
C'est vrai que c'est très sympa d'avoir développé les mêmes pyjamas pour les adultes et les enfants. Ils adorent faire comme papa ou comme maman. Alors, bravo pour le choix des matières premières très qualitatives. Vous êtes dans le haut de gamme et ces choix sont cohérents. Puis vous développez une gamme plus estivale avec des shorts. On peut donc être chic toute l'année. Alors, quelques idées pour la suite et quelques points améliorés. Vous vous positionnez sur du haut de gamme. Il manque peut-être quelques codes. Déjà, vous avez choisi des tisserands de qualité, mais les photos ne reflètent pas cette qualité. Il manque des zooms sur le tissu, à l'extérieur, à l'intérieur, pour qu'on puisse vraiment voir sa douceur. Il manque aussi des zooms sur les détails qui font le haut de gamme. L'élastique qui ne taillade pas le ventre, la couture de la poche, les poches du pantalon, et puis peut-être d'autres détails importants pour une clientèle exigeante. Et puis, dormir avec une chemise n'est pas très confortable. Donc, expliquez comment vous avez imaginé le design de vos pyjamas pour qu'ils soient, eux, très confortable. Et puis enfin, vous pourriez aussi offrir la broderie. Demander 5 euros en plus sur un pyjama qui coûte déjà 150 euros, ça peut être un peu rageant, quitte à passer le prix du pyjama à 155 euros, mais comme ça, on a l'impression d'avoir un cadeau et on aime ça. Enfin, vous pourriez proposer plusieurs choix de boutons. Les vôtres sont assez classiques, pourquoi pas proposer des boutons dorés ou plus travaillés. Là, en revanche, il serait normal de faire payer un surplus. Et puis, puisqu'il y a personnalisation, ne serait-ce qu'avec la broderie, vous pouvez aussi limiter les stocks en produisant la commande ou presque à la demande. Il y a rarement urgence à avoir un nouveau pyjama, on peut bien attendre 2-3 semaines. Pour la distribution, puisque votre associé a travaillé dans l'hôtellerie, peut-être qu'à côté de notre peignoir de bain, on pourrait aussi avoir un joli pyjama maison dormant qu'on pourrait donc acheter également dans notre hôtel. Et puis aujourd'hui, vous vous positionnez sur le pyjama chemise haut de gamme. C'est une excellente idée à décliner avec des manches courtes, en flanelle toute douce pour l'hiver, en coton bio, en bambou, en lin, etc. En revanche, pourquoi proposer un ensemble avec un t-shirt pour les hommes? Vous risquez de casser votre ligne directrice. Ou alors, vous allez sur le pyjama haut de gamme, mais sous toutes ses formes. Le problème, c'est que vous risquez de rencontrer beaucoup de concurrents déjà bien implantés. Alors peut-être troisième voie, le vêtement d'intérieur élégant, mais il va falloir proposer d'autres coloris car pour le moment, votre style fait vraiment pyjama, beaucoup plus que vêtement d'intérieur. Alors, avant d'angler votre communication, Maison Dormant est-elle la maison du pyjama chemise élégant pour toute la famille? Ou la maison des pyjamas élégants des familles chics? Ou la maison des pyjamas élégants qu'on ne cache pas? À vous de choisir et de communiquer ensuite.
Merci Nathalie. Bah, comme d'habitude, c'est complet. Il y a plein de choses. Qu'est-ce que vous en retirez, Victoire?
Tout d'abord, je la remercie d'avoir pris le temps d'analyser Maison Dormant. Et c'est tout à fait vrai ce qu'elle dit. C'est vrai que quand on se lance, ça fait un an qu'on existe, c'est quand même... On se pose plein
c'est
de questions,
début.
Donc
ouais.
C'est un peu dur de se poser à voir. Ouais, exactement. Je reprends un point, et je trouve que c'est un peu le problème du digital et une des faiblesses du digital.
De voir la qualité, c'est ça?
C'est voir la qualité, ouais. Exactement. Ça, c'est un peu plus compliqué. Oui. On a beau faire des vidéos, faire des zooms parfois, etc. C'est quand même un peu plus compliqué.
C'est un des enjeux, en tout cas, voilà, des gros plans pour
exactement.
Que vraiment on se rende compte de la texture, de la qualité du produit. C'est vraiment. Ouais.
Exactement. Et c'est vrai que je pense qu'en rencontrant le client, c'est quand même autre chose et il est plus vite conquis par les matières. Et quant aux axes de développement, on va effectivement l'hiver prochain faire de la robe de chambre également.
Ouais.
Donc on reste dans l'univers de la nuit, mais on ne fera pas que du pyjama. Et en fait, on a souhaité faire aussi du pyjama short et t-shirt en éco-responsable, en matière éco-responsable, parce que on a eu pas mal de retours d'hommes qui nous disaient « Ah, mais moi, je mets pas de pyjama, ça va pas, ça fait papy, etc. » Donc, on voulait plaire à tout le monde.
Avoir cette offre-là aussi, voilà. Cet aspect confort qu'on évoque depuis le début de l'émission, forcément, le mettre en avant aussi, peut-être encore un peu plus.
Exactement, et c'est vrai que pour nous, c'était hyper important d'être confortable tout en restant chic,
ouais.
Et de pouvoir descendre au petit déjeuner si on est avec des amis ou sa belle-famille en pyjama,
c'est ça.
Sans avoir honte, ou ouvrir au postier ou au livreur de sushis en pyjama.
Par exemple, des choses qu'on a pu vivre avec les différents confinements, ou encore une fois avec le télétravail pour ceux qui peuvent en faire. Mickaël Azoulay, patron d'American Vintage, bah, votre regard tout simplement de patron justement sur ce pitch proposé par Maison Dormant.
Moi je pense qu'il y a de belles valeurs, je pense que c'est nouveau, il faut du temps, ce qui est intéressant c'est que vous restez focus sur le concept, sur le produit. Je pense qu'il faut essayer de l'internationaliser, je pense qu'il vous faut aussi un développement B2B et voir comment le vestiaire va évoluer, mais ça il faut enchaîner les saisons et rester toujours agile et flexible, voilà, sur l'évolution du produit. Essayer peut-être de penser ce produit qui pourrait aussi se porter pas que en mode nuit, pyjama intérieur, parce qu'on a peut-être aussi des fois envie d'avoir des petits costumes qui sont dedans, dehors même, sur des matières, sur des popelines de coton en été, sur des tuiles, enfin, il y a plein de choses à travailler qui peut donner cet esprit de costume pyjama, mais qui peut se porter aussi en extérieur et à casser les codes aussi, même pour aller bosser. C'est faisable. Dans notre collection hommes, on a, et en femmes, pas mal de produits qui peuvent penser à de l'intérieur, mais qui sont intérieur-extérieur. Mais voilà, il faut du temps, il faut rester focus sur tout ça, continuer et se laisser porter, quoi.
C'est une bonne idée, cette idée, notamment alors, le côté B2B évoqué par Mickaël Azoulay, ce que disait Nathalie aussi sur, avec des hôtels, par exemple, à côté du peignoir un peu haut de gamme.
Alors oui, je tiens à rectifier d'ailleurs, parce qu'en fait, mon associé Lucia Robert a actuellement un hôtel.
Très bien.
Et donc, elle est multicasquette, superwoman. Et du coup...
Donc, ça peut faire un endroit assez facile pour les, pour les mettre en avant.
Exactement. Et en fait, c'est vrai que c'est une des voies de développement, c'est de démarcher des hôtels pour leur proposer ça. Après, c'est vrai que je pense que sur la robe de chambre, c'est peut-être plus simple. Parce que à cause des tailles des pyjamas, c'est une vraie logistique à mettre en place.
Effectivement. En termes de gamme de prix, haut de gamme, qualité, pour avoir une idée.
Alors, pour l'enfant, on est dans les 70 euros à peu près. Et pour l'adulte, on est entre 100 et 160 euros.
D'accord. Et cet aspect stock dont parlait, ou commande un peu à la fabrique à la demande, évoqué par Nathalie, ça peut se mettre en place petit à petit, mais voilà, encore une fois, c'est le début, c'est ça ?
Exactement. Et ça, c'est assez compliqué parce qu'en fait, les usines, on fabrique donc en France et en Europe, mais les usines nous demandent des minimums, des quantités minimums.
Oui, c'est ça.
Donc, le vrai à la demande, c'est un peu compliqué à faire. Après, on fait des petites séries. Donc, par exemple, avec Liberty, on travaille sur des petites séries. Et donc... vous avez presque un pyjama unique et si vous le faites broder, il est complètement unique.
Effectivement. Eh bien, merci Victoire Ribaud-Ménitière, cofondatrice de Maison Dormant. Merci d'être venue pitcher ici dans le studio de La France Bouge. Évidemment, chers auditeurs et auditrices, vous le savez, si vous avez, vous aussi, envie de venir nous envoyer votre projet d'entreprise, venir pitcher, eh bien, n'hésitez pas.
Et il n'y a qu'une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et promis juré, Charlotte Barécan et moi, on lit toutes les candidatures.
Effectivement, Nathalie, vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens, La France Bouge. Les trophées, d'ailleurs, la cérémonie de cette année, elle approche à grands pas.
Europe 1, La France Bouge. Aurélien Fleureau.
Et c'est la dernière partie de votre émission. Mickaël Azoulay, fondateur d'American Vintage, avec nous depuis 13h. Et à La France Bouge, on aime mettre en avant les entreprises qui mettent tout en place pour leurs salariés, pour leur bien-être. Et c'est votre cas, c'est ce qui se passe chez vous. Christelle Olivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale d'Axon Cable, alors une entreprise qui conçoit des liaisons électriques sur mesure, des câbles, des connecteurs pour tout type de marché, hein, le spatial, l'automobile, le médical. Une entreprise créée en 1965 qui est ensuite devenue familiale quelques années plus tard. Vous êtes basée en Champagne, c'est bien ça. Comment ça se passe pour vous, le bien-être de vos salariés? Je crois que ça passe essentiellement par le sport, c'est ça?
Alors, pas que.
Pas que. Alors, en tout cas, c'est le focus du jour.
C'est ça. C'est vrai que nous attachons une grande importance à la santé des salariés et nous avons été la première entreprise en France à avoir été certifiée ISO 45001 pour nos travaux liés à la sécurité et la santé au travail.
Oui.
Et c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu mettre en place un programme pour encourager nos salariés à prendre soin de leur santé en pratiquant régulièrement une activité physique et une alimentation équilibrée.
Alors, comment ça s'est mis en place?
On a mis en place déjà les principes qu'on voulait proposer à nos salariés.
Message,
une activité par trimestre dans l'un des thèmes suivant le sport, l'hydratation, la nutrition, le bien-être ou l'échange. Donc, une activité par trimestre qu'ils pouvaient faire pendant leur pause du midi ou le soir, toujours dans l'entreprise. Donc, c'est le sport qui vient à nous. Et pas nous qui allons dans les salles.
Oui, sur place. Ouais.
Et voilà, sur place et avec un coach local pour permettre aux salariés de continuer l'activité si elle lui plaît.
Donc c'est ça, c'est qu'on peut à la fois le faire une fois de temps en temps, régulièrement, faire évoluer le type d'activité. Hein, vous l'avez dit, il y a différentes options.
Voilà, en fait, tous les trimestres, on change de sujet. Donc on a commencé ça en novembre 2016. La première activité, c'était facile, c'était du baby-foot. Donc on a fait un challenge baby-foot. Nous sommes 770 sur le site de Montmirail. Il y a eu 70 participants. Donc en 2016, avec 120 spectateurs à la finale.
Très bien.
Et ensuite, depuis, 15 activités différentes qui sont très variées. C'est passé par le yoga, par des rendez-vous de course, par du piloxing, de l'ultimate.
Piloxing, c'est quoi ça?
Piloxing.
Parce que je ne travaille pas chez Axon Cable, je ne connais pas.
Ah ben, ça ne sort pas des produits que nous fabriquons. Non, c'est du fitness qui allie trois briques, le pilate, la boxe et la
danse.
Ah
oui, ok, on voit les syllabes. Ok, très bien.
On a fait du Taïso, ça a été animé par un de nos salariés qui est aussi coach dans une association locale.
Ouais.
À chaque activité, on a entre 50 participants à 150 participants. Mais on a une action qui a généré 350 participants. Ça a été la marche.
Ouais, d'accord.
On a proposé ça à toutes nos filiales françaises. Et là, on est 1000 en France.
Ouais.
On a eu 350 participants, donc un tiers. C'était très bien. Et on comptait nos pas pendant 3 semaines. Mmh. Avec un fil conducteur, c'était faire le tour du monde de nos filiales sur les 3 semaines.
D'accord.
55 millions de pas. On l'a fait en 17 jours et en fait, sur les 3 semaines, on a fait 75 millions de pas. Donc, vous pouvez faire la division, ça fait pas mal par jour.
Donc, le défi marche qui a très bien fonctionné, ça vous a donné envie de le reproduire peut-être justement, vu qu'il y a eu un vrai succès, un vrai retour de la part des salariés ?
Alors, peut-être un jour, mais ouais. Aujourd'hui, on a encore plein de choses sous le coude à faire découvrir.
D'accord.
Donc, on n'a pas prévu de faire deux fois la même activité.
Très bien. Et est-ce que vous savez si vous avez un peu, entre guillemets, suscité des vocations, en tout cas créé des passions, disant, tiens, je l'ai essayé une fois dans ma boîte et j'ai envie d'en faire mon hobby, mon loisir hebdomadaire ?
Ah, presque tout le temps.
Ah ouais, d'accord.
On vient de finir Strong Nation, c'était du cardio.
Ouais.
En sortant de réunion, on a fait 3 séances comme d'habitude et on a proposé une séance collective avec tous les participants. On en était plus de 50 à le faire dans notre salle de conférence. Et à l'issue de la dernière séance, j'ai une salariée qui est venue me voir en me disant « c'était trop bien, est-ce qu'on peut le mettre de manière définitive et l'avoir systématiquement toutes les semaines ?»
Ouais, donc
j'ai répondu que non, ouais. Ça ne fait pas partie du
c'était
principe.
Pas l'idée, mais en tout cas une porte d'entrée pour quelque chose de plus régulier pour ceux qui le souhaitent. Eh bien, c'est très clair. Merci Christelle Olivier d'être intervenue dans La France Bouge aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la directrice générale d'Axon Cable. On va conclure notre émission avec vous, Mickaël Azoulay. On va parler à nouveau, enfin, on va continuer de parler sport en entreprise. C'est aussi quelque chose de très présent chez American Vintage ?
Énormément. Nous, depuis 2012, dans nos nouveaux locaux, ouais. Siège social à Signes, on a une salle de sport,
mm-hmm.
On a même un petit spa. Et c'est vrai que chaque jour, du lundi au vendredi, on a des coachs entre midi et 2.
D'accord.
Et c'est vrai que la salle de sport est vraiment, vraiment utilisée. Il y a des équipes qui viennent très tôt le matin, essentiellement entre midi et 2, et il y en a qui viennent en fin de journée.
J'imagine que ça faisait partie des choses qui devaient manquer pendant les confinements, qu'on avait peut-être plaisir à retrouver, venir aussi sur place.
C'est pour ça que les gens chez nous, ils ont plaisir à faire très peu de télétravail et être en entreprise, parce qu'il y a tous les jours des entraînements.
Ouais, ce type de rendez-vous, ça
joue
forcément. Tous les jours,
ça permet de créer des liens entre les départements, ça permet de créer des liens entre les équipes. Et là, en ce moment, à l'heure où on parle, on a deux de nos collaborateurs qui se sont lancés à Paris. Ils partent de Paris. À vélo,
ouais.
C'est cycliste,
okay.
Et ils vont faire un peu le tour de l'Europe.
Très bien.
Sur 15 jours,
okay.
Pour un retour prévu fin de semaine prochaine de Marseille pour rentrer au bureau à Signes. Donc ils vont visiter quelques boutiques Amsterdam, Berlin, ils font d'autres villes importantes où nous sommes présents, donc ils se sont lancés ce défi.
Parfait.
Et à l'heure où on parle, on peut les suivre sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc non, c'est très important.
Et les encourager à distance, très bien, jolie initiative. Merci Mickaël Azoulay, un grand merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Je rappelle
merci
que vous êtes le fondateur de la marque American Vintage. Je salue bien évidemment Nathalie Carré. À demain Nathalie, vous serez aux côtés de Carole Ferry. Et puis dans un instant, eh bien, c'est le flash, évidemment l'information à 14h sur Europe 1, suivi de Christophe Ondelat.